Une autre vie s'invente ici.
Une autre vie s'invente ici.
L'équilibre énergétique en question.
Énergie renouvelable,
bâtiment,
transport,
sobriété énergétique,
économie circulaire.
On en parle dans cette émission coproduite par Radio Larzac, Radio Sainte-Afrique et le Parc naturel régional des Grands Causses.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Une autre vie s'invente ici. Depuis quelques mois, nous consacrons cette série d'émissions à la recherche de l'équilibre énergétique sur le territoire du Parc naturel régional des Grands Causses. Après la rénovation des bâtiments, les outils de production, le réseau de chaleur-bois, la sobriété énergétique et l'économie circulaire, nous allons parler aujourd'hui de l'offre globale de transport et des questions de mobilité. En effet, les déplacements représentent en France un quart des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans les zones rurales et périurbaines. Les enjeux sont évidemment environnementaux, mais aussi sociaux et économiques. Pour en parler, nous avons réuni plusieurs invités autour de cette table. Véronique Sins, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes élue sur la commune de Sainte-Afrique en charge de l'environnement et du développement durable. Et avec vous, nous aborderons la façon dont Sainte-Afrique a choisi de traiter ces questions de mobilité et l'engagement que la ville porte dans ce domaine.
Tout à fait.
Karine Fabregat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes stagiaire au Parc naturel régional des Grands Causses, plus particulièrement sur la thématique de la mobilité. Et avec vous, nous parlerons entre autres vélo à assistance électrique, puisque le parc s'est doté d'un parc d'un parc de vélo à assistance électrique.
Tout à fait.
Voilà. Et Alexandre Chevillon.
Bonjour.
Bonjour, bien connu de nos auditeurs à présent, donc chargé de mission énergie-climat. Donc avec vous, on va dresser un portrait assez global de la façon dont le parc s'est emparé de ces questions de mobilité et d'offre des transports. Alors, je parlais en introduction d'un quart des émissions de gaz à effet de serre produites par la mobilité, par les transports, mais en fait, sur le territoire du parc naturel régional des Grands Causses, c'est beaucoup plus.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, quand on regarde donc le territoire du parc, ça avait été dit lors des premières émissions radio, consomme annuellement 2000 gigawattheures d'énergie, dont 43% sont liés au transport. L'objectif du parc, c'est de réduire cette consommation à 1400 et en parallèle d'augmenter la production qui est aujourd'hui à 600 à 1400 pour qu'en 2030, on soit à l'équilibre énergétique. Donc pour ça, il y a trois leviers principaux. C'est rénover les bâtiments, c'est déployer une mobilité durable et c'est augmenter la production d'énergie renouvelable. Donc la mobilité, c'est vraiment un des trois enjeux forts du parc. Ça représente donc 43% de l'énergie consommée et des gaz à effet de serre.
Comment on explique ce chiffre justement ?
Alors comment on l'explique aujourd'hui ? Dans le sud d'Aveyron, il y a 90% des foyers qui sont équipés d'une voiture. On est à un niveau d'équipement de l'ordre de 1,3 véhicules par foyer, alors qu'en France, on va être à 1,1.
Donc il y a un genre de suréquipement, en quelque sorte
De suréquipement, mais qui est lié au contexte aussi. Pourquoi ? Parce qu'on a très peu de transports en commun. On a des distances domicile-travail qui sont relativement longues. Un chiffre aussi, si on regarde il y a 30 ans en arrière, on était à 70-80% de gens qui habitaient et travaillaient sur leur même commune. Aujourd'hui, ce chiffre il est tombé à 50%. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur deux qui se déplace en dehors de sa commune. Et dans les couples, généralement, on a du mal à avoir les deux personnes qui habitent et travaillent dans la même ville. Donc c'est souvent un compromis. Le monsieur travaille à Millau, la dame travaille à Sainte-Afrique. Donc on va habiter Saint-Rome-de-Cernon et les deux vont devoir avoir une voiture pour aller au travail.
Alors, donc comment le parc s'est emparé de cette question de mobilité ? Qu'est-ce que vous avez souhaité mettre en place pour répondre à cette problématique ?
Alors, comme on l'a vu, la problématique ici sur le sud d'Aveyron, c'est l'usage de la voiture individuelle. Pourquoi individuel ? Parce que quand on regarde en fait les chiffres, on s'aperçoit que par exemple sur du domicile-travail, le taux moyen de passagers dans un véhicule, il est de 1,1 passagers. ce qui nous, alors qu'un véhicule a en moyenne 4 ou 5 places, donc on a de la marge pour augmenter ce taux d'occupation. Donc le problème, il est lié vraiment au fait qu'on se déplace individuellement dans une voiture. Donc face à ça, on essaye de trouver différentes solutions. Donc ça va de réfléchir à des transports en commun, augmenter le taux d'occupation du véhicule, alors par le covoiturage, par l'autostop. Pourquoi pas partager son véhicule. Demain, on pourra peut-être en parler à travers l'autopartage. Le fait qu'un véhicule, en fait, un véhicule fonctionne 5% de son temps, 95% du temps, il est à l'arrêt. Et pourquoi pas profiter de ce temps-là pour le partager avec quelqu'un d'autre. Après, ça peut être à travers l'éco-conduite. Quand on n'a pas le choix de prendre son véhicule, au moins qu'on utilise de manière économique et écologique son véhicule pour réduire les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Et puis après, ça peut être des solutions de se passer de la voiture pour certains trajets, passer par la marche à pied, le vélo. Bon, ça concerne peut-être plus les zones urbaines, mais quand on regarde au niveau national, il y a un trajet sur deux quand même qui est fait pour des trajets de moins de 3 km. Donc un trajet qui potentiellement pourrait se faire en vélo, d'où l'opération qu'on lance sur les vélos. Voilà. Donc on essaye de trouver, il n'y aura rien qui remplacera la voiture individuelle, mais c'est comme sur l'énergie, il n'y aura rien qui remplacera le pétrole. C'est une multitude de solutions et la mobilité c'est un petit peu pareil. On va avoir différentes manières de se déplacer demain. Transport en commun, covoiturage, autopartage, autostop, vélo, etc. Il faudra enchaîner toutes ces solutions parce qu'aujourd'hui, on est trop axé uniquement dans la voiture.
Voilà. Alors, dans l'histoire, on voit que les périodes de prospérité ont coïncidé avec des améliorations des systèmes de transport. Bon, on peut parler de la roue, du chemin de fer, etc. Est-ce que aujourd'hui, on est dans cette démarche-là d'amélioration des systèmes de transport?
Alors ça peut être effectivement d'améliorer des systèmes, de partager aussi. Je pense qu'on est dans une période où on partage de plus en plus, on échange avec d'autres personnes. Donc aujourd'hui, le covoiturage, ça fait quasiment plus peur, quoi. Alors qu'il y a 5 ans en arrière, c'était réservé aux étudiants, aux personnes qui n'avaient pas d'argent, quoi, entre guillemets. Aujourd'hui, ça se démocratise. Donc demain, on peut imaginer partager aussi son véhicule. Après, c'est sûr qu'il va falloir aussi réfléchir sur les transports en commun. Aujourd'hui, si on prend l'axe Millau-Sainte-Afrique, on a une difficulté. On a des transports en commun. Il y a des bus qui roulent sur cet axe. Il y en a même un paquet. Sauf qu'on a les bus du conseil départemental, on a les bus du conseil régional Midi-Pyrénées, on a les bus de la SNCF Languedoc-Roussillon.
Donc plusieurs opérateurs.
Trois opérateurs différents auxquels on peut ajouter un opérateur privé lié aux industriels de Roquefort. Donc ça fait quatre organisateurs de transport sur le seul axe Millau-Sainte-Afrique. Quatre tarifs différents, quatre horaires différents, des fois des bus qui se suivent avec deux personnes dans chaque bus. Donc il n'y a pas de coordination. Il y a un moment, il va falloir peut-être mettre tout ça dans un pot commun et de dire...
Ça suppose de mettre les interlocuteurs autour d'une table, voilà. et de s'entendre sur une offre globale, en fait.
Voilà, tout à fait. Ça, c'est un travail de fond qui est en cours, qui va prendre du temps, parce qu'on ne peut pas refaire tout ça du jour au lendemain. Il y a des concessions qui sont faites, des marchés qui sont passés avec des opérateurs, des autocaristes qui courent jusqu'à 2017-2018. On ne peut pas refaire ça du jour au lendemain. Mais à terme, il va falloir qu'on y arrive et les évolutions réglementaires, et notamment la loi NOTRe, va permettre de renforcer ça. La fusion des régions, c'est pareil. Avant, on avait d'un côté Languedoc-Roussillon avec la ligne Montpellier-Millau-Sainte-Afrique et de l'autre côté Midi-Pyrénées avec la ligne Toulouse-Albi-Millau. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une région qui sont encore en cours de fusion, mais demain, du coup, il n'y aura plus qu'une personne à la place de deux interlocuteurs. Donc, aujourd'hui, il y a un potentiel qui est énorme là-dessus parce que les gens ne savent pas, en fait, qu'il y a ces différentes solutions. Et puis, l'offre, elle est floue, quoi. On a quatre tarifs différents, quatre horaires différents. On n'arrive pas à avoir l'info au même endroit. Donc, on a un projet de fond au niveau du parc, c'est de réorganiser les transports. Et notamment sur cet axe-là, je parle essentiellement pour les urbains. Désolé, mais... Si on regarde les flux, les comptages routiers, il n'y a que sur cet axe où on peut imaginer vraiment du transport en commun performant. Parce qu'on est à 5 à 6 000 véhicules jour. Mettre du transport après dans les autres territoires un peu plus ruraux, ça passera peut-être pas par le transport en commun, mais plus par des solutions type covoiturage, autopartage, du transport à la demande dans certains cas pour certaines populations, etc.
Alors, donc peut-être qu'on peut dire que cette amélioration du système de transport, en fait, c'est une amélioration de l'efficacité de l'offre, d'une certaine manière, puisque là aussi, ça procède d'une démarche de sobriété, comme on l'a pu voir sur d'autres thématiques liées à l'énergie, et que donc, en fait, sobriété, ça veut dire aussi quelquefois, c'est synonyme d'efficacité, d'une certaine manière. On parlait de l'offre de transport en commun, en citant cet axe Millau-Sainte-Afrique. À Sainte-Afrique, donc, vous avez engagé une démarche par rapport à la mobilité. Est-ce que vous pouvez nous détailler le contenu de cette démarche?
Oui, Sainte-Afrique s'est engagée au départ pour s'engager vers le développement durable, et la mobilité en fait partie. Donc on a décidé d'engager des actions et d'adhérer entre autres à celle du parc, hein, en termes de vélo électrique, en termes de réseau pouce, mais aussi au-delà de ça, une fois par an, on aimerait que ça perdure, mais au moins déjà l'année dernière et encore cette année, on va mettre en place un carapate, un pédibus, c'est-à-dire un transport scolaire en ville pour encourager les enfants à venir à l'école à pied. Le lycée Jean Jaurès va aussi travailler sur un projet de garage à vélo avec des bornes rechargeables pour les batteries. Voilà, donc on est vraiment dans une dynamique pour un autre mode de mobilité. Hein, essayer d'adapter sa mobilité en fonction de ses déplacements, plus ou moins courts, plus ou moins longs.
Voilà. Alors, on va peut-être détailler chacune de ces initiatives et parler du réseau Pouce, qui est donc là, Sainte-Afrique est un peu ville pilote sur le territoire du parc naturel régional des Grands Causses. Qu'est-ce que c'est que le réseau Pouce? Comment ça fonctionne?
Donc, réseau Pouce, c'est un dispositif qui relie et les conducteurs et des passagers, donc à travers une charte. Hein, donc on peut dire que c'est de l'autostop sécurisé quand on est au bord de la route, et le conducteur et le passager se reconnaissent. Hein, ils savent qu'ils ont tous les deux signé cette charte, et donc on monte plus facilement dans le véhicule et on s'arrête peut-être plus facilement.
Donc ça veut dire qu'il y a des signes de reconnaissance.
Voilà. Il y a, la ville est jalonnée, je dirais même le territoire de la communauté de communes de Sainte-Afrique est jalonné avec des panneaux qui sont repérables de couleur verte et qui sont des points d'autostop. Voilà.
Et comment est-ce qu'on adhère à ce système?
Alors on adhère à ce système en allant à Sainte-Afrique, c'est au syndicat d'initiative. Dans les villages avoisinants Sainte-Afrique, sur la communauté de communes, c'est au sein des mairies. Et il y a aussi la possibilité de le faire directement sur le site de l'association, puisque c'est une association, l'association Réseau Pouce, qui gère ce dispositif. Donc on peut aussi y adhérer en s'inscrivant directement sur le site. Mais sur chaque village et à Sainte-Afrique, on peut aussi aller signer la charte et obtenir son macaron pour mettre sur la voiture et ses petites affichettes pour indiquer la destination vers laquelle on va.
Voilà. Donc oui, effectivement, Réseau Pouce, ça existe ailleurs en France. C'est le choix qui a été fait donc, de développer ce système-là. Quel a été l'accompagnement du parc vis-à-vis de la commune pour mettre en place ce Réseau Pouce?
Alors,
Alexandre Chevillon.
Peut-être pour revenir sur l'intérêt de Réseau Pouce par rapport au covoiturage, parce que c'est pas toujours très clair, les gens voient ça comme du covoiturage. Le covoiturage mérite une organisation, de prévoir à l'avance qu'on va aller à tel endroit, on doit se rencontrer à tel endroit. Donc ça, c'est bien pour des trajets qui sont prévus longtemps à l'avance, pour partir en vacances, je sais pas, aller voir la famille,
ou des longs trajets
particuliers, ou pour du domicile travail où on sait que tous les jours on termine à telle heure, donc on a du covoiturage avec les collègues. Après, l'autostop organisé, là, l'idée, c'est d'aller sur les trajets un peu plus spontanés, un peu plus ponctuels, de dire, tiens, je vais aller à la piscine, plutôt que de prendre ma voiture, je sors au bord de la route et j'attends qu'une voiture passe, parce que des voitures qui passent, il y en a régulièrement quand même, étant donné qu'on roule quasi uniquement en voiture ici. Autre chose aussi, pour des gens, par exemple, le covoiturage, ça marche quand on a des horaires réguliers au travail. Et la difficulté, il y a plein de gens qui ne peuvent pas covoiturer parce qu'ils ne savent pas à quelle heure ils vont terminer ou parce qu'ils ont une course à faire ailleurs, ils doivent monter au magasin chercher quelque chose. Et du coup, là, il y a un intérêt vraiment à l'autostop. Donc c'est pour ça que nous, on a souhaité développer ça. On a lancé un petit peu un appel au peuple en 2014 pour demander quelles collectivités seraient intéressées pour expérimenter. Là, on a eu une réponse de Saint-Afrique qui était très intéressée par ce système. Donc, on a mis en place après une animation. Donc, on a dédié un stagiaire pendant 6 mois à Saint-Afrique pour mettre en place tout ce dispositif, choisir les points d'arrêt. Donc, il y a une 50aine d'arrêts qui ont été matérialisés sur la Comcom de Saint-Afrique. Et puis après, former les secrétaires de mairie, faire la communication, promouvoir le service auprès de la population, des lycéens, etc. Et puis un accompagnement financier, parce qu'on a pris en charge le parc une partie de l'opération. Voilà. Et donc aujourd'hui, face au succès de Réseau Pouce, enfin on va peut-être en parler, Véronique pourra en parler mieux que moi, aujourd'hui, les élus du parc ont souhaité poursuivre l'engagement dans l'autostop organisé et Réseau Pouce en déployant ce dispositif sur le reste du territoire, donc petit à petit. Donc aujourd'hui, là, on lance un nouvel appel au peuple, aux collectivités qui souhaiteraient développer Réseau Pouce. Nous, on a toute l'animation et on a le budget pour mettre en place Réseau Pouce sur les autres territoires.
Oui, alors le succès de Réseau Pouce, parlons-en. Alors Véronique Sainz, vous êtes venue aujourd'hui au studio en utilisant le Réseau Pouce. Oui. Donc est-ce qu'on peut donner quelques chiffres par rapport justement à ce succès dont parlait Alexandre Chevillon ?
Donc je crois que sur la communauté de communes, il y a 200 inscrits. Mmh. Voilà, alors après moi je ne serais quand même pas... Bon, sur Saint-Afrique, je suis l'élu Réseau Pouce, donc souvent on me pose la question, alors Réseau Pouce, ça marche ? Donc, ben oui, il y a 200 inscrits. Après, est-ce qu'on voit beaucoup de monde sur le bord de la route en train de faire du stop ? Ça, au départ, quand ça a été mis en route, bon, moi, je ne suis pas toujours sur la ville de Saint-Afrique hein, pour observer s'il y a du monde au bord de la route. Je disais, ben écoutez, moi, j'en sais rien, mais bon, c'est à nous aussi de faire des efforts. Je constate que depuis maintenant, on recommence à voir des gens qui font du stop, effectivement, dans Saint-Afrique. Moi, j'ai eu l'occasion de prendre plusieurs personnes. Alors, elles ne s'inscrivent pas forcément dans le dispositif Réseau Pouce, mais je suis sûre que ça a une incidence, quoi. Le Réseau Pouce, on en a entendu parler à la radio, même à la télé, hein. Donc, je pense que dans les esprits, ça, voilà, on commence à se réaccaparer ce monde. De ce mode de transport quoi, qui existe depuis quand tout le monde dit mais oui mais moi avant j'allais au lycée en stop mais moi j'allais jusqu'à Béziers en stop, enfin voilà, tout le monde pratiquait le stop et maintenant ben, c'est vrai que c'est voilà, la voiture est devenue voilà l'objet de déplacement et on a complètement abandonné les autres modes de déplacement voilà. Et donc moi je pense que c'est en train de démarrer. Voilà. Et ce matin, moi, je suis venue en stop. Alors, j'étais pas forcément non plus dans le dispositif Réseau Pouce, mais moi, maintenant, c'est rentré dans ma tête, quoi. Et je me suis dit, tu vas venir à Millau en stop. Et bon, voilà, ça a très bien marché. J'ai attendu moins de 10 minutes et j'étais à Millau. J'ai fait Saint-Afrique-Millau en stop sans aucun problème.
Donc, retour en grâce de l'autostop grâce au Réseau Pouce. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que là, il y a une forme qui est... peut-être aussi d'une certaine manière plus sécurisée du fait de l'emplacement des arrêts, etc.
Il y a ce point-là qui est important, effectivement, c'est qu'on vient sécuriser les arrêts, donc à des endroits qui sont stratégiques, donc l'autostoppeur, il y va en toute sécurité à cet endroit-là. Il se dit, la collectivité a dit, on fait du stop-là, je me mets ici. Donc il y a ça qui fonctionne, et l'élément qui est déterminant, c'est le fait d'indiquer la destination, de voir que la personne, elle adhère à Réseau Pouce, qu'elle est sous un panneau, qu'elle a sa planche, son affiche Réseau Pouce, et qu'en plus, elle indique Saint-Georges-de-Luzançon, et quand on est à Saint-Rome-de-Cernon, on se dit, bon, allez, pourquoi pas, ça ne me dérange pas de prendre quelqu'un juste pour faire 5 km, je m'engage à pas grand-chose. Tandis que quand on a quelqu'un en bord de route qui tend juste le pouce, on ne sait pas s'il va à Toulouse, à Albi ou à Montpellier. Donc ça, c'est un point déterminant. Et quand je parlais de succès tout à l'heure, c'était pas pour dire que tout le monde se déplace en réseau pouce. Après, ce que je dis souvent aux gens qui disent « mais on n'envoie pas des autostoppeurs », pourquoi ? Parce qu'ils sont vite pris, déjà. Ça, c'est un point essentiel. On a fait des enquêtes. Enfin, quand je dis des enquêtes, c'est qu'on a mis 3 personnes pendant 2 jours sur Saint-Afrique à faire du stop, à tous les arrêts qui ont été mis en place. Pour avoir un peu des statistiques, et on constate quoi ? C'est que les gens attendent en moyenne 5 minutes sur le territoire du Saint-Africain. 5 minutes pour être pris en stop.
C'est presque comme le métro.
Voilà, et surtout quand on arrive dans le centre-ville de Saint-Afrique, on arrive à même 3 minutes. Donc sur la D999 entre Saint-Georges et Vabre-l'Abbaye et en centre-ville, on est à 3 minutes d'attente. Donc c'est ultra performant, on sait qu'on n'aura jamais de transport en commun comme ça. Et on est au niveau de performance, comme vous l'avez dit, d'un métro parisien, quoi. Après, la difficulté, par contre, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore perçu comme une solution... réservé à certaines personnes, une solution de secours, entre guillemets. Si j'ai pas la voiture, ben voilà, je peux faire réseau pouce. Les gens le voient pas encore comme un moyen de déplacement, mais plus un moyen de dépannage. Alors pour eux, quand ils ont un problème, ou pour dépanner quelqu'un qui n'a pas la voiture, un jeune, un étudiant, une personne âgée, etc. Et c'est pas encore rentré dans les mœurs, mais bon, ça fait 6 mois que c'est lancé, réseau pouce sur Saint-Afrique. Le changement de comportement, ça prend beaucoup plus de temps que ça. Donc il faut un certain temps pour améliorer l'efficacité. Mais par contre, aujourd'hui, le succès, c'est que si on fait du stop, on sera vite pris à Saint-Afrique. Et ça, c'est déjà un élément important.
Oui, je confirme. J'ai covoituré dernièrement une dame de Saint-Georges qui n'a pas de véhicule, donc qui est un petit peu coincée. Et je lui dis, mais t'as fait du stop ? Elle me dit, ah ben oui, j'ai fait du stop, j'ai adhéré à Réseau Pouce, je me suis mise sous un panneau, mais bon, elle n'a pas du tout attendu. Hein. Les 2 premières personnes n'étaient pas adhérentes, alors j'ai pas voulu monter, j'ai refusé. Et la troisième, ah ben elle était pas adhérente encore, mais le monsieur m'a dit, mais madame, vous craignez rien, j'ai 20 ans, je suis montée. Et donc cette femme est montée. Donc on voit bien que ça crée une dynamique et que, bon, adhérent ou non à Réseau Pouce, voilà, l'esprit autostop va peut-être
très développer. Bien. Véronique Sainz, Alexandre Chevillon, Karine Fabregat, on continue de parler avec vous, offre globale de transport et mobilité, mais on va faire une petite pause musicale en attendant.
Santiago Pied, Walkman, oh Santiago Pied, Walkman, oh Santiago Pied, Walkman, oh Santiago Pied. La terre est ouverte à te battre et la clé raccrochée à la portée du champ. Oiseau transistor, parasite, les cigales, le lézard, la zermette, solace à ses sandales. Marcheurs seront au soleil bridé. Lozenge chalume au sous de l'air du temps que trace le pas du marcheur serein au soleil bridé. Lozenge chalume au sous de l'air du temps. À l'eau de vie pour carburant, à la station service il paie toujours content. Cherchant le point dans les étoiles, la borne pour la voie lactée qui se tire sous ses sentiers. Marcheur serein au soleil bridé. Lozenge chalume au sous de l'air du temps que trace le pas du marcheur serein au soleil bridé. Lozenge chalume au sous de l'air du temps. Walkman oh Santiago Pied, Walkman oh Santiago Pied, Walkman oh Santiago Pied, Walkman oh Santiago Pied. Lou Botticelli en camina, pèlerin lucide des Vénus en coquille et passe électrique, l'univertuga, les bimonjoy à la guerre del gré. Marcheur serein au soleil bridé, le zinc chalume au sous de l'air du temps que trace le pas du marcheur serein au soleil bridé, le zinc chalume au sous de l'air du temps. Coucou Saint-Jean, Audi c'est la mare. La Saint-Jacques, Audi c'est la mare. La Coucou Saint-Jean, dices la mort, la cause est déjà au moins. Ah, où dises la mort, Walkman, wow, Santiago, pied, Walkman, wow, Santiago, pied.
Vie s'invente ici,
l'équilibre énergétique en question.
Et aujourd'hui, dans une autre vie s'invente ici, nous parlons offre globale de transport et mobilité avec nos invités Karine Fabreguette, Véronique Sens et Alexandre Chevillon. Alors, Véronique Sens, donc on parlait du réseau Pousse sur la commune de Saint-Afrique, le Saint-Africain, et hors micro, on parlait de cet aspect en fait qui est lié à une habitude, à des habitudes, à une culture aussi qui est que quelquefois les gens sont très réticents par rapport à l'autostop et à l'idée de partage de cet espace très privatif qu'est la voiture.
Oui, je crois que l'autostoppeur renvoie une image, l'image de celui qui n'a pas les moyens d'avoir cette fameuse voiture, qui par contre, elle, renvoie à un statut social, quoi. Donc le fait d'être au bord de la route avec son pouce, ça veut dire que on n'a pas de voiture, on est... Et donc, je crois qu'il faut franchir cette barrière quand on se met au bord de la route. C'est le plus difficile, c'est de se mettre dans cette posture et de dire, je vais être, on va me voir comme quelqu'un qui, socialement, n'a pas réussi, quoi. Une fois franchi ça, c'est formidable parce que les gens s'arrêtent et il y a un partage au niveau de la voiture, il y a de la discussion, Je crois que effectivement, après on se met au bord de la route. Pourquoi ? Alors effectivement parce qu'on n'a pas de voiture. Et aussi, en ce qui me concerne, c'est vraiment parce que j'ai une conscience assez développée en matière de développement durable, que j'ai maintenant le changement climatique, on sait d'où ça vient, il faut faire quelque chose. Donc individuellement, moi j'ai envie de faire quelque chose et c'est une des solutions, quoi, de laisser tomber sa voiture. Alors, je ne suis pas contrainte de laisser tomber ma voiture puisque j'en ai une. Donc, pour moi, c'est sûr que c'est plus facile de tourner la clé dans le contact et puis de partir là où j'en ai envie au dernier moment. Je me suis dit maintenant individuellement, il te faut faire quelque chose. Ça ne suffira certainement pas, mais si on est tous, individuellement, je pense que la petite goutte formera les grands océans.
Cet aspect de gratuité à travers l'offre d'autostop avec le réseau Pousse, elle n'est pas négligeable non plus, puisque comme en matière énergétique, il y a une vraie précarité en termes de mobilité. Peut-être Alexandre Chevillon pour en parler.
Oui, effectivement, ça rejoint aussi des préoccupations économiques pour tous, mais en particulier pour les foyers modestes. En Sud-Aveyron, la dépense moyenne d'un foyer pour se déplacer, c'est de l'ordre de 5 000 euros par an. Alors ça peut paraître beaucoup, 5 000 euros, mais parce que dans les 5 000 euros, il n'y a pas que l'essence qu'on met dans la voiture. Et ça, les gens ont souvent tendance à l'oublier.
Oui, il y a l'entretien,
L'assurance, l'amortissement de la voiture. Un véhicule récent, ça décote de 2-3 000 euros par an. Et ça, c'est très important déjà pour montrer que le problème, il ne vient pas de la technologie de la voiture. Demain, si on a un véhicule électrique, si on a un véhicule hydrogène, ça ne va pas changer grand-chose sur ces questions économiques. Ça améliorera peut-être, avec certaines énergies, le bilan environnemental, mais sur l'aspect économique, ça ne va rien changer. Et parce que l'essence, c'est de l'ordre de 20% du coût de fonctionnement de la voiture.
Et moi, je crois qu'effectivement, le fait de ne pas pouvoir se déplacer, ça isole socialement, on devient isolé, hein, surtout comme les nôtres, en zone rurale.
Oui, en termes d'accès à l'emploi, par exemple, souvent, il y a l'obligation de déplacement qui est liée à l'emploi, et effectivement, ça pose rapidement
des problèmes. Il me semble que maintenant que le dispositif est mis en place, qu'on voit comment ça fonctionne, il va falloir faire un accompagnement, justement, pour encourager la population à adhérer à ce dispositif. Parce qu'effectivement, quand on est socialement peut-être un peu défavorisé, se remettre au bord de la route pour faire du stop, ça en remet une couche, quoi. Et si justement on va vers ces personnes-là en leur disant « Mais vous voyez, c'est un moyen de se déplacer comme un autre, maintenant
ça fonctionne,
tout le monde a accès, tout le monde peut s'en... » Je pense que peut-être ça les libérera aussi et ils iront beaucoup plus facilement. Moi, je sais que je suis allée sur les Restos du Cœur pour leur faire part du dispositif. Effectivement, les responsables m'ont dit qu'il y aurait besoin peut-être d'un baptême pour encourager, pour accompagner ces personnes-là à les encourager à pratiquer l'autostop.
Alors, autre engouement qui existe actuellement, c'est celui autour du vélo. On a vu apparaître notamment l'indemnité kilométrique vélo qui a été fixée à 25 centimes d'euros par kilomètre. Donc, cette indemnité kilométrique vélo peut, sous certaines conditions, être cumulée avec la prise en charge des abonnements de transport collectif. Et donc, ces 25 centimes d'euros du kilomètre, c'était le montant qui était réclamé par les associations comme le Club des villes et territoires cyclables, qui annonce qu'elle allait mettre en place un observatoire pour mesurer les effets de l'indemnité kilométrique sur la pratique du vélo dans les trajets domicile-travail. Pour calculer cette indemnité kilométrique vélo, c'est la distance la plus courte, évidemment, entre la résidence habituelle du salarié et le lieu de travail ou la gare ou la station de transport collectif qui sera alors prise en compte. Et puis, autre mesure qui a été annoncée récemment, elle concerne les flottes de vélos. Les dépenses seraient couvertes par la réduction d'impôts. Donc ça a été précisé. Donc sont inclus l'acquisition de vélos et d'équipements comme leur entretien, les frais d'assurance pour le vol et l'accident, la construction, l'aménagement ou la location d'un local dédié. Donc c'est la loi de transition énergétique qui a instauré une réduction de l'impôt sur les sociétés à hauteur de 25% du prix d'achat de la flotte de vélos afin de favoriser sa pratique dans les trajets domicile-travail. Donc ce sont des dispositions qui résultent du lobbying, alors comme quoi le lobbying c'est pas toujours mauvais, néfaste, exercé par le club des parlementaires pour le vélo. Il existe un club des parlementaires pour le vélo, mais je ne le savais pas, des sénateurs, des députés. Et cette réduction fiscale donc était menacée par le projet de loi de finances 2016, mais finalement elle a été adoptée. Alors, Karine Fabreguette, on va parler avec vous de vélo-assistance électrique, puisque le parc s'est doté de vélo-assistance électrique. Comment ça s'est passé, cette mise en place des vélos sur le territoire du parc naturel régional des Grands Causses?
Donc au début de l'année 2016, le parc des Grands Causses s'est doté de 6 vélos à assistance électrique qu'il prête aujourd'hui à la population pour une durée d'une semaine. Donc le but de cette opération, c'était de pouvoir en fait permettre aux habitants de tester l'utilisation de vélos à assistance électrique dans leur trajet quotidien domicile-travail pour voir si ça pouvait remplacer certains de leurs déplacements faits actuellement en voiture. Donc toujours dans le même objectif, pouvoir diminuer les émissions de gaz à effet de serre et faire des économies. Donc il y a 4 de ces vélos qui sont disponibles au siège du parc à Millau et 2 qui sont disponibles à la communauté de communes à Sainte-Afrique. Donc pour pouvoir utiliser ces vélos, les habitants appellent soit le parc des Grands Causses, soit la communauté de communes de Sainte-Afrique. Et ensuite on convient avec eux de rendez-vous pour qu'ils puissent venir récupérer les vélos. Donc à ce moment-là, on leur explique comment ces vélos à assistance électrique fonctionnent. Et avec les vélos, on leur fournit également les équipements nécessaires à la sécurité, notamment un antivol et également un gilet jaune, un casque et une pompe.
Oui, c'est très controversé l'histoire du port du casque sur le vélo, parce qu'il y a des associations qui s'opposent au port du casque en disant que ça risque de freiner l'essor de la pratique cycliste.
Alors nous, voilà, on n'oblige pas les personnes à prendre les casques, mais on les propose si, voilà, pour, s'ils veulent avoir un petit peu plus de sécurité. Et donc, pour pouvoir récupérer les vélos, il suffit d'amener... Donc, on a des conventions qui sont prêtes, qu'il suffit de remplir. On demande aux personnes de venir avec une carte d'identité et un chèque de caution de 1 000 euros, donc qui n'est pas encaissé, sauf en cas de
détérioration,
voilà, de détérioration au niveau du vélo. Donc voilà, ces prêts peuvent durer une semaine maximum. Et actuellement, donc, on a lancé l'opération début avril. Et on a eu une trentaine de réservations de vélos, là, donc jusqu'au milieu du mois de mai.
Le délai d'attente, c'est combien ?
Alors actuellement, il faut attendre 15 jours, 3 semaines pour avoir un vélo disponible. Voilà, à peu près au 20 mai, ils sont réservés. Et on a déjà eu donc des retours de personnes qui ont pu tester ces vélos sur une semaine. Donc, ils sont très satisfaits de l'opération. On a notamment une personne qui a pu l'utiliser pour faire ses trajets du domicile à son travail à Centreville, à Millau. Et qui était satisfaite puisque ça lui permettait en fait de perdre moins de temps pour se garer en centre-ville. Également, elle n'avait pas le parc-mètre à payer. Donc, elle a été relativement satisfaite de cette opération.
Et elle va en acheter un, a priori.
Voilà, ouais.
Ah oui, donc le fait de l'emprunt va déclencher un achat de
vélo électrique. C'est tout l'objectif, hein. Essayez pendant une semaine et si ça vous convient, vous pourrez en acheter un. Donc c'est vraiment les pousser à l'achat par ce prêt, parce que c'est quand même un achat qui est conséquent, c'est un prix qui est conséquent.
Oui, bon. Alors justement, pourquoi le choix a été fait de vélo à assistance électrique plutôt que de vélo traditionnel ?
Donc, l'achat s'est porté sur des vélos assistance électrique puisque sur le territoire, un des principaux freins pour faire ces trajets domicile-travail à vélo, c'est le dénivelé. Et donc, cette assistance électrique, en fait, permet de monter plus facilement les côtes et du coup, de pouvoir utiliser le vélo, même si on habite tout en haut de Millau ou si on a une côte importante à faire, ça va permettre de faire le trajet plus facilement sans se fatiguer au niveau du vélo. Donc c'est ça le principal objectif pour acquérir des vélos à assistance électrique.
Véronique Sainz, donc deux vélos sur le territoire de la communauté de communes du Saint-Africain.
Oui.
Comment ça se passe ? Vous les avez testés vous-même, les vélos ?
Alors moi, je les ai testés quand il y a eu sur le parc la conférence de presse qui présentait l'opération. Donc, c'est d'une efficacité redoutable. Effectivement, sur nos territoires, ce qui est à redouter, c'est le dénivelé, comme l'a dit
Karine.
Karine, voilà. Et donc, oui, c'est... Après, sur Sainte-Afrique, pareil, l'engouement fonctionne. Hein. Voilà,
très bien.
Ils sont actuellement empruntés sur plusieurs semaines.
Alors, le coût de fonctionnement d'un système comme celui-ci, Karine Fabregat, quel est-il ?
Donc, pour les vélos à assistance électrique que le parc a acheté, donc, ça coûte 3 à 4 centimes pour recharger entièrement la batterie. Et avec la batterie qui est chargée complètement, on peut effectuer 100 km. Donc, les 100 km coûtent 3 à 4 centimes d'euros. Si on se base sur un véhicule qui consommerait en moyenne 6 litres aux 100 km, pour faire ces 100 km, il faudrait dépenser 7 euros. Donc en fait, utiliser un vélo assistance électrique, si on fait le calcul, ça revient 200 fois moins cher qu'utiliser son véhicule motorisé.
Mais là aussi, il y a un coût de fonctionnement, enfin d'entretien. Je veux dire, c'est-à-dire que les batteries, ça s'use, ça doit se changer, non ?
Alors, pour les vélos assistance électrique, justement, à l'achat, il faut bien faire attention au type de vélo que l'on prend parce qu'il y a des batteries qui vont avoir une durée de vie plutôt courte et des batteries qui ont une durée de vie plutôt longue. Donc, ça fera souvent un vélo qui sera plus cher à l'achat, mais qui sera plus durable dans le temps.
Est-ce que vous, par exemple, seriez à même d'effectuer du conseil dans ce domaine-là ?
Alors, on peut donner quelques petits conseils, mais on renvoie plutôt sur les vélocistes, et notamment le vélociste partenaire qui nous a fourni les 6 vélos assistance électrique.
D'accord. Et qui est sur le territoire
Qui est à Millau, c'est...
Rock and Bike. Voilà. Et en l'occurrence, bon, nous, on pousse à l'achat par ce prêt. Donc on prête le vélo pendant une semaine, les gens essayent, ça leur convient ou pas, et surtout après on a une incitation financière dans le sens où on remet un bon d'achat de 200 euros à valoir sur un vélo, parce que c'est souvent le frein, hein, en fait, à l'acquisition d'un vélo, c'est le coût d'achat. Donc on remet un bon d'achat de 200 euros qui nous a été offert par un vélociste de Millau. Pour le moment, voilà, c'est Rock'n'Bike, mais rien n'empêche les autres de faire la même chose.
Et en termes d'investissement global, qu'est-ce que ça représentait pour vous, pour le parc?
Bon. L'investissement, alors un vélo électrique, il y en a 800 euros, 700 euros, les premiers prix dans les grandes surfaces, entre guillemets. On peut monter jusqu'à 3000 euros sur des VTT électriques. Nous, on a pris un modèle assez haut de gamme. Pourquoi ? Parce que bon, ils vont être prêtés à beaucoup de monde et il faut des systèmes quand même robustes. Mais après, à 1500 euros, on a des très bons vélos.
Alors, 6 vélos pour un territoire qui compte, je crois, 68 000 habitants, si je me souviens bien, ça fait... ça laisse de la marge, quand même. Comment est-ce qu'on peut imaginer le développement d'un système comme celui-ci? Est-ce que c'est le souhait du parc d'acquérir plus de vélos, ou est-ce que c'est vraiment une démarche d'incitation uniquement?
C'est plutôt une démarche d'incitation. Le but de l'opération, c'est vraiment de pouvoir... permettre aux personnes de tester ces vélos, de se rendre compte par elles-mêmes de ce qu'elles peuvent faire avec, plus que de mettre en place une flotte entière.
Attention, ça c'est important, nous on ne fait pas de la location. On n'est pas un loueur de vélos, les vélocistes en font de la location, les magasins de vélos en font. Nous on ne les loue pas, on les prête gratuitement et on les prête une seule fois. Une seule fois à une personne. Donc s'il veut réemprunter le vélo, on dit non. L'idée, c'est que ça tourne sur le territoire, que tous les gens puissent essayer, et surtout de ne pas se mettre en concurrence avec les Loirs.
Peut-être préciser la durée de l'opération.
Oui.
Disons qu'aujourd'hui, on a des vélos, on verra combien de temps ils durent. Tant que les vélos fonctionneront et qu'on aura de la demande, on continuera. On ne va pas, au bout d'un an, dire on arrête. Quoi. Si on a les vélos qui fonctionnent et qu'il y a encore de la demande, on continuera. Donc potentiellement, ça peut durer 2 ans, 3 ans. Si après, il y a une demande sur Camarès, sur Cornus, je ne sais pas, d'avoir les vélos là-bas, on les mettra à disposition de des collectivités aussi, pour être encore au plus proche des habitants.
Mais on pourrait imaginer que ce soit un thème dont des collectivités territoriales s'emparent totalement. Par exemple, il y a l'exemple de Nantes Métropole, là, qui investit 50 millions d'euros dans l'achat d'une flotte de vélos assistance électrique. Et en fait, le but avoué, c'est d'arriver à l'horizon 2030 à une utilisation du vélo de l'ordre de 12%, alors qu'aujourd'hui, ça plafonne à environ 3% d'utilisation. Donc c'est quand même déjà une démarche forte. Et puis, bon, c'est un territoire qui est beaucoup plus vaste, puisque c'est 10 fois plus d'habitants que celui du parc naturel régional des Grandes Causses.
Oui, après là, vous faites un peu plus référence au système de vélo.
Mais c'est un système de location, effectivement.
Voilà, de vélo en libre-service. Après ça, est-ce que c'est viable dans nos territoires? C'est pas sûr, parce qu'on n'a pas la densité de population. Même à Millau, la difficulté qu'on va avoir, c'est que les gens vont le louer en centre-ville, par exemple. Et se rendre sur les zones d'activité pour la journée. Donc les vélos ne vont...
C'est le retour, la question du retour des vélos ou...
C'est surtout, en gros, un vélo va être utilisé par une personne par jour, alors qu'à Nantes, en Loire-Atlantique, les vélos passent de point en point, sont réutilisés par d'autres personnes, et ils tournent, on a un genre de circuits comme ça, les vélos tournent en permanence et ils ont 10-15 utilisateurs par jour, alors que nous on aura beaucoup plus de difficultés on aura moins de facilité à les occuper autant, les vélos.
Donc affaire à suivre, hein. De toute façon il y aura un retour d'expérience sur l'utilisation de ces vélos à assistance électrique, puisqu'on n'est qu'au début de l'opération, vous le disiez en introduction tout à l'heure. Donc autre système, donc on a parlé du réseau Pousse tout à l'heure, mais il y a aussi l'autopartage. Qu'est-ce que c'est l'autopartage, Alexandre Chevillon?
Le principe, c'est de partager son auto. Si on le prend à l'envers, c'est le partage de l'auto et de dire, en fait, un véhicule, 5% de son temps, il roule et 95% de son temps, il est arrêté. Donc à partir de là, c'est de dire, peut-être qu'on pourrait le partager avec son voisin, entre entreprises, entre particuliers. Voilà. Donc il y a différents systèmes. Il y a des systèmes, un peu comme le covoiturage, avec des sites comme BlaBlaCar, on a des sites comme BuzzCar, comme CityCar, où les particuliers peuvent mettre une annonce de leur voiture en disant, ben voilà, moi j'ai ma voiture, elle est disponible la semaine du lundi au vendredi, pas le week-end ou le contraire, etc. Et puis derrière, il y a un calcul automatique, il y a un système assurantiel derrière pour permettre la réservation. Donc après, on se donne rendez-vous avec la personne, il vient chercher les véhicules, on fait le tour du véhicule, on lui laisse les clés, il nous le redonne. Et puis,
il y a un état des lieux qui est fait. Ouais.
Voilà. Mmh. Mais c'est un système qui commence à se développer dans les grandes villes. Qui est encore quand on regarde sur Millau, la dernière fois que j'ai regardé, il y avait 4 voitures qui étaient disponibles sur Millau en autopartage, donc il y en a déjà. Donc ça, c'est l'autopartage entre particuliers. Il y a des systèmes d'autopartage qui sont mis en place par les villes. Comme les Vélib, on discutait tout à l'heure, bah, des villes mettent un véhicule qui va être destiné à plusieurs habitants. Avec les mêmes limites que j'expliquais sur le vélo, c'est que nous, un système comme ça, c'est pas dit que ça fonctionne, parce qu'une ville qui achète un véhicule pour le mettre uniquement aux particuliers, qui reste stocké à une borne toute la journée, quand le véhicule sera pris, ça sera pour aller à la journée à Montpellier, ou je sais pas, ou faire du domicile-travail, mais il tournera pas assez le véhicule. On a des exemples qui ont été mis en place dans des territoires ruraux avec ce montage urbain, entre guillemets, qui ne fonctionne pas, qui ne sont pas viables du tout en milieu rural. Donc, nous, l'idée qu'on a par rapport à ça, c'est de dire, au niveau du parc, on a une flotte de véhicules, des citadines, des Clio, des Mégane, enfin ce format de véhicules-là, des utilitaires et des véhicules utilitaires. On part du constat suivant, c'est que nous, les samedis, dimanches, ils sont très, très rarement utilisés, les véhicules. Le soir, ils sont très rarement utilisés. La semaine, en journée, en semaine, c'est quand même rare que les 10 véhicules soient pris en même temps. Donc l'idée, c'est de dire, bah, pourquoi on ne mettrait pas à disposition ces véhicules de la population et on ne vient pas racheter un véhicule supplémentaire, mais on utilise le nôtre. Parce que nous, on a des coûts de fonctionnement qui sont fixes, entre guillemets, c'est l'amortissement du véhicule, c'est l'assurance, c'est l'entretien. Et il y a juste l'essence qui viendra en complément, quoi. Et ça, il faudra trouver le système économique qui permette, nous, on ne cherche pas à faire du profit, on cherche juste à... Si ça ne nous coûte pas plus cher, en fait, de mettre en autopartage et que ça rend service, on le fera. Donc voilà, on est dans cette idée, d'autant qu'on va essayer de renouveler la flotte de véhicules du parc par des... aujourd'hui, on a uniquement du diesel. Le diesel est quand même assez décrié en ce moment au niveau des particules fines, des COV et compagnie. Donc, on va essayer d'améliorer l'efficacité de nos véhicules. Et après, de tester la mise en autopartage. Mais par contre, voilà, y a tout un système à développer qu'on va... on va essayer d'expérimenter. Hein. C'est le rôle d'un parc aussi d'innover, d'expérimenter. Et on a la chance, entre guillemets, d'être situé en centre-ville de Millau, donc avec un potentiel, on serait au milieu du Larzac, les gens pour qu'ils viennent chercher un véhicule...
Ça serait un peu plus compliqué.
Donc nous, on sent qu'il y a un potentiel. En tous les cas, on va l'essayer. Ça viendra pour la fin de l'année, début 2017.
Et là encore, comme dans la démarche engagée avec les vélos à assistance électrique, c'est plus une démarche... en quelque sorte d'exemplarité, c'est-à-dire vous voulez montrer un exemple pour que ça puisse essaimer, se développer ailleurs d'une certaine manière ?
Oui, complètement. Alors il y a des collectivités qui se posent la même question, des collectivités du territoire. Donc nous, on va essayer de le faire chez nous. Et puis derrière, si c'est un système qui fonctionne, bah, peut-être qu'on pourra le déployer à Saint-Afrique avec les véhicules pareil de services de la ville, avec la ville de Millau, avec la ville de Sévrac, etc., avec toutes les collectivités.
On pourrait imaginer aussi que ça change complètement les comportements du citoyen et se dire, bah, voilà, aujourd'hui, je vais investir dans une voiture, mais je sais que au moment où je fais l'investissement, je vais mettre ce véhicule en partage et donc je vais, d'une certaine manière... amortir un petit peu l'investissement que j'ai souhaité réaliser.
Alors, effectivement, c'est, à mon avis, ça sera l'entrée première pour les citoyens, pour les particuliers, de dire, bon, bah, j'ai un véhicule qui me coûte cher, l'idée, c'est qu'il me coûte moins cher. C'est souvent l'entrée première pour le covoiturage. Mais derrière, il y a un intérêt qui est vraiment culturel aussi, c'est de dire, bah, c'est un objet qui m'appartient un peu moins. Enfin, c'est plus l'objet dont je suis fier. Enfin, je le prête à tout le monde. Il n'y a plus cette appartenance vraiment à ce véhicule qui est un peu notre deuxième maison aujourd'hui. Et là encore, aujourd'hui, ça peut paraître dans la tête de certaines personnes comme inimaginable de dire je vais laisser mon véhicule à quelqu'un d'autre quoi, pour le week-end. Enfin, Aujourd'hui, ça paraît encore surprenant. Dans quelques années, je pense qu'on aura dépassé ça. Je vais faire juste une aparté par rapport à Airbnb. Regardez, aujourd'hui, les gens laissent leur maison pour leurs vacances, pour les vacances à des gens qu'ils ne connaissent pas. Enfin, c'est quand même la maison, la propriété, le rêve d'une vie qu'on a construit, qu'on a passé 20 ans dedans, on le laisse à d'autres personnes. Alors, c'est avant tout pour des questions économiques, mais en tous les cas, ça permet de...
Oui, il y a une barrière psychologique qui est tombée, là.
Et ça commence à tomber. Et je pense qu'on est dans cette évolution. Et demain, peut-être qu'on arrivera dans les lotissements à partager une tondeuse avec les voisins. Parce que là encore, si on regarde la tondeuse... on s'en sert maxi une heure par semaine, quoi, et en période estivale. Donc on pourrait se dire, c'est peut-être un investissement qu'on peut partager à plusieurs.
Très bien. Alors, autre chose que vous développez au niveau du parc, c'est l'éco-conduite, à travers la formation, là, cette fois-ci, à destination des conducteurs. Alors, pas seulement d'ailleurs pour les véhicules d'usage touristique ou autre, mais également pour d'autres types de véhicules.
Oui, alors, on a vu différentes solutions. Dans certains cas, le covoiturage est possible. Dans d'autres, ça va être l'autostop. Pour certains trajets, le vélo. Mais tout ça, il y a des moments où on n'a pas le choix. Il faut prendre la voiture. Et là, l'idée, c'est que la voiture, on peut l'utiliser d'une manière beaucoup plus raisonnable et raisonnée en adoptant une éco-conduite. Une éco-conduite, c'est une conduite... alors, on y viendra peut-être un peu par la suite, en détail. Mais l'idée, c'est de montrer qu'en appliquant toutes ces règles d'éco-conduite, on peut économiser 15-20% de carburant. Donc ça, on l'a testé en interne au niveau du parc en 2012. Donc ça date un petit peu. Tous les agents du parc ont été formés à l'éco-conduite. Un an après... on est arrivé à des résultats de l'ordre de 10% d'économie de carburant, sachant qu'il y avait eu du renouvellement de personnel, donc tout le monde n'était pas formé, les véhicules sont pris parfois par les élus, par les stagiaires qui n'ont pas été formés. Et 10%, en plus, c'est des véhicules qui ne nous appartiennent pas. Donc on s'est dit, si un salarié n'a pas forcément d'intérêt direct à faire économiser de l'énergie à sa structure. Donc on s'est dit, si on arrive à faire 10% là, avec toutes ces... avec tout ce que je viens de citer, ça veut dire qu'on peut faire beaucoup plus potentiellement chez soi avec son véhicule perso. Donc face à ça, on s'est dit, on va lancer une campagne maintenant de sensibilisation à l'éco-conduite. Et plutôt que de dire il faut faire de l'éco-conduite, parce que là j'entends déjà les auditeurs qui se disent c'est la conduite de papy, mais non, c'est pas du tout ça. Et ça, il faut le montrer aux gens, montrer c'est quoi l'éco-conduite, et le montrer, pour nous, ça passe par se former à l'éco-conduite via un simulateur de conduite, par exemple, ou via une auto-école. Et du coup, c'est des animations qu'on a mis en place où, par exemple, on est venu sur des zones d'activité avec le simulateur de conduite, un formateur d'auto-école pour que les gens mettent en pratique vraiment les gestes et comprennent c'est quoi l'éco-conduite. Et on s'aperçoit de quoi ? C'est que en éco-conduisant, bien souvent, on gagne du temps. Ça paraît complètement utopique. On gagne du temps, on a beaucoup plus de sécurité.
On gagne du temps parce qu'on a des meilleures performances de conduite ou
On optimise. En fait, l'éco-conduite, il faut se mettre à la place d'un vélo. Vous faites du vélo, vous voyez le feu rouge, qu'est-ce que vous faites ? Vous ralentissez, vous ne vous arrêtez pas, parce que vous savez que ça va être dur de reprendre derrière, de repartir, de refaire décoller le vélo. Un véhicule, c'est pareil, vous voyez le feu rouge, il faut anticiper, il faut rester en deuxième, ralentir, il va passer au vert. De toute façon, vous savez toujours qu'après le rouge, il y a le vert. Et sauf que quand vous repartez, vous êtes déjà élancé, vous êtes déjà à 20-30 km/h, donc vous gagnez du temps. Le fait de ne pas coller aucune voiture, pareil, on va gagner du temps. Le fait de regarder loin au rond-point en regardant le flux, de voir à quel moment on va pouvoir s'insérer, ça évitera de s'arrêter et de devoir redécoller la voiture. Et redécoller à chaque fois, c'est une seconde de temps de réaction, une seconde pour appuyer la pédale, on a perdu 2 secondes. Et donc, on arrive par ce biais-là, à gagner du temps, quoi. Et je peux vous assurer que c'est pas du tout une conduite de papy, parce qu'au contraire, c'est une conduite qui est dynamique, l'éco-conduite. C'est-à-dire qu'il va falloir, en gros, appuyer fort sur la pédale. Faut pas avoir peur. Par contre, faut passer les régimes très vite, parce que les motorisations ont changé. Avant, les turbos se déclenchaient à 2 500-3 000 tours minute. Aujourd'hui, à 1 200, ça s'engage, les compresseurs ou les turbos. Donc, en gros, il faut passer les rapports très vite. C'est entre 1 500 et 2 000 tours pour un diesel et 2 000 à 2 500 pour une essence. Donc, ça change de conduite. Et puis après, c'est beaucoup l'anticipation. Donc ça, on l'a fait avec ces simulateurs dans les zones d'activité. Pour les administrations, par exemple, les services techniques de la ville de Saint-Affrique, pour les services techniques de la Comcom de Millau, ceux qui utilisent les camions-bennes d'ordures ménagères. On a fait pour les services de la ville de Millau également, enfin voilà, pour les administrations, pour les entreprises, et on va continuer à partir de l'automne à nouveau relancer. On a déjà sensibilisé 300 personnes. On va essayer d'en faire autant en 2016 et 2017.
Donc on a, à travers cette émission, balayé tout un panel de modes de déplacement, de transport, avec le réseau pouce, le vélo assistance électrique, l'autopartage, l'éco-conduite, les transports en commun qu'il va falloir harmoniser. Et comment justement est-ce qu'on peut articuler tous ces systèmes de déplacement ?
Si on revient à l'objectif à moyen terme de dire, par exemple, entre Millau et Saint-Affrique, on a des bus qui soient cadencés. Derrière, l'idée, ça serait de développer ce qu'on voit dans les villes, en fait, des stations multimodales ou par exemple à l'entrée de Toulouse, où vous avez un parking où vous pouvez venir en covoiturage, laisser votre voiture, et à partir de là, vous avez différentes solutions. Le métro, bon, on ne l'aura pas, mais par contre, on pourrait avoir du bus. On a du bus urbain sur Millau. On pourrait avoir du réseau pouce à partir de là. On pourra laisser son vélo sur ses stations multimodales en toute sécurité dans des carrousels et pas accrocher à un lampadaire avec un cadenas, quoi. Enfin, voilà, c'est l'idée de dire toutes ces solutions, il faut les regrouper en un point. Et quand on arrive en bus à la gare routière de Saint-Affrique, en général, on n'a pas forcément à faire toute la journée à la gare routière de Saint-Affrique. Par contre, on a besoin d'aller dans la zone des cases, aller à l'hôpital, aller à la piscine, etc. Et c'est trouver en fait différentes solutions, que ce soit un vélo en libre-service, que ce soit du réseau pouce pour se rendre à l'hôpital, à la piscine, etc. Voilà, donc c'est de regrouper toutes ces solutions de mobilité à travers des lieux et qui soient reliées au transport en commun, et au transport en commun, mais aussi à l'accès vers les grandes villes en dehors du territoire, que ce soit Montpellier, Toulouse, Clermont, voire Paris. Donc c'est de dire, et pareil pour les touristes, de dire à un touriste de Paris qui vient en Aveyron, qu'il arrive à Montpellier, après qu'il vienne à Millau, et de Millau qu'il puisse après aller dans nos campagnes, mais qu'il puisse venir en tous les cas en transport en commun chez nous.
Alors là, ça suppose la mise en place, d'une certaine manière, d'infrastructures. Il va y avoir des décisions politiques à prendre. Est-ce que le travail de prise de conscience, etc., est-ce qu'il est fait complètement, ou est-ce que c'est une démarche que vous avez encore auprès des élus, des décideurs, par exemple ?
Alors tout ce projet-là, il est né en fait de groupes de réflexion avec des citoyens, des entreprises. Ce qu'on appelle le projet TEAM, c'est un travail national avec une expérimentation locale sur le territoire du parc. Donc ça a permis de mener cette réflexion, et c'est cette idée des citoyens, des entreprises, des acteurs, des collectivités, des acteurs des transports qui est ressortie, c'est qu'il faut à la fois cadencer et puis voilà, avoir ces stations multimodales qui permettent de faire les premiers ou les derniers kilomètres en fait. Et ça, aujourd'hui, donc, ça a été proposé aux élus. Alors, non seulement ça a été validé, mais ça a été pleinement intégré dans le SCOT du parc, le schéma de cohérence territoriale. Et dans la stratégie de ce schéma de cohérence, c'est clairement indiqué qu'il faut mutualiser les transports en commun, qu'il faut les cadencer sur l'axe Millau-Saint-Afrique et développer des stations multimodales. Et donc, d'une idée ressortie par une trentaine, quarantaine de personnes, les élus l'ont validée, mais surtout l'ont intégrée au SCOT, qui a une portée juridique. Demain, on peut imaginer, par exemple, dans le SCOT, que s'il y a création de zones d'activité, ça sera conditionné à la desserte en transport en commun, sinon pas de zone d'activité. Nouveau lotissement, d'avoir un cheminement piéton, une piste cyclable pour y aller. Voilà, donc c'est des choses aujourd'hui qui ont été pleinement intégrées par les élus qui sont... C'est devenu une vraie stratégie de territoire. Et quand on revient il y a 5 ans, 6 ans en arrière, au début de la mission énergie-climat au parc, quand on parlait transport-mobilité, il y avait une certaine fatalité en disant « on ne peut rien faire ». Il n'y a que la voiture ici qui marchera, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, il y a quand même des préoccupations, parce qu'on voit très bien que c'est un gros frein sur le territoire, la mobilité, parce que derrière, on peut pas accueillir des nouvelles personnes sans leur proposer des transports en commun. Pour les touristes, ça peut être un frein aussi. Pour les personnes qui vivent, c'est un frein à l'emploi, etc. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une préoccupation forte sur la thématique de la mobilité qui a été... vraiment prise en compte par les élus du territoire.
Donc cette offre globale de transport, elle ouvre plein de perspectives sur le territoire du parc naturel régional des Grands Causses, qui est territoire à énergie positive pour la croissance verte, on le rappelle. Donc on suivra l'affaire, évidemment. En tous les cas, merci à tous les trois. Merci Karine Fabreguette, merci Véronique Sens, merci Alexandre Chevillon. C'était l'avant-dernière émission de notre série consacrée à la recherche de l'équilibre énergétique. Dans une prochaine émission, qui sera la dernière cette fois-ci, on parlera éolien et énergie renouvelable chez nos confrères de Radio Sainte-Afrique, puisque je vous rappelle que cette émission est coproduite par Radio Larzac, Radio Sainte-Afrique et le Parc naturel régional des Grands Causses. Merci à tous, à très bientôt.